Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Ce matin, on est ravis de vous accompagner. C'est le premier jour des vacances de la Toussaint pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous faites la grasse mat, vous faites peut-être votre petit sport du matin, ou vous êtes déjà sur la route des vacances. Peut-être on est ravis de vous accompagner ce week-end. Et je suis ravi d'accueillir ce matin. N'est pas en vacances. En même temps, il a eu une grande préparation assez longue. Hein. C'est Christophe Cessieux qui est avec nous. Salut Christophe.
Ça va Georges ?
Ça va très
ouais,
bien.
Ouais, mais bon, je vais bientôt être en vacances, rassure-toi, parce qu'il faut se préparer pour partir en vacances. Mais j'ai dit.
C'est vrai.
Ouais,
en
c'est
plus, il y a les test matchs qui arrivent, 15 de France et tout.
Regarde Denis en pleine préparation.
Quel bosseur.
Ça va Denis ? Attends,
mais ça fait peur. Quand j'entends ça, les vacances pour Christophe Cessieux. Non, mais c'est. Ça me fait trop rire.
Il y avait un
non, mais le groupe. C'est pas possible. Christophe, il travaille jamais. Il prend du plaisir.
Le mec, il y a une
être à la radio,
il ouvre sa bouche et
non, t'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est du compliment que je te fais.
Ah,
tu prends
tu
du plaisir.
Un compliment. Mais oui. Je me méfie avec toi.
Toi, c'est la passion.
Voilà. Exactement. C'est la passion. Ouais. Voilà. Pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, c'était le grand débat de la matinée. Qui est le plus gros bosseur entre Christophe Cessieux et Denis Charvet.
Moi, je revendique rien.
On est sans réponse. On est sans réponse pour l'instant.
On est tous les deux qu'en fait, on a du mal à nous départager.
David Douillet est avec nous. Salut David.
Ah, salut bosseur. Tout le monde, comment ça va?
Grand bosseur David, grand bosseur.
Bah, ouais.
Grand cuisinier aussi, on va le découvrir bientôt.
Vous savez ouais.
Ouais. Pas David, hein.
Bah, pour bien bosser, il faut bien manger.
Hein. Pour bien faire la sieste derrière.
Et ça, c'est de quoi
exactement. Voilà, tout était une histoire d'équilibre dans la vie.
Ah ouais, on va en parler de ces quatre dans les grandes gueules du sport. On en parlait avec David ces derniers jours. On va faire un vestiaire, je pense, sur la bouffe et le sport. Excès, parfois, même pour les journalistes sportifs. Hein, ça arrive, on est tous passés par là, mais je me compte dedans.
Il n'y a que des spécialistes ce matin. La bonne bouffe.
Peut-on faire un tour de France en mangeant équilibré tous les jours, Christophe Cessieux?
Ouais,
c'est un vrai débat.
Bah, quand on passe dans la région de David, on bouffe un énorme poulet de Bresse. Enfin, c'est la région de Julien aussi.
Ouais.
Et là, c'est dire que le lendemain, on le paye quand même.
Julien Beletto est là. Ça va, Julien?
Salut tout le monde.
Non,
ouais, ça va.
Hyper fit.
Salut, Julien.
Hyper fit.
Grâce au poulet de Bresse.
Ouais. Je vous mets également dans les coulisses. Quand je prépare l'émission, j'appelle tout le monde avant la veille. Hier, j'appelle Julien Beletto. Je lui dis voilà, on va faire ci, ça, ça, ça. Et à un moment donné, il me dit attends une seconde. Il avait tiré un drive. Il était sur un peu au golf.
Gros bosseur aussi.
T'étais avec JC Drouet ou non, vous croisez
avec des vrais joueurs.
Des pingouins, quoi.
Surtout derrière, il y avait 3 secondes après ton coup, c'était. Ouais, dis-moi donc, effectivement, on va parler de toi.
Il préférait pas regarder où était tombée la balle.
J'étais très sérieux.
Incroyable. On ne cite plus jamais le nom de Christophe Drouet ici, d'accord?
D'accord.
Ok. Merci.
Comment il va?
Il va très bien, il est en vacances lui aussi. Allez, jusqu'à midi au programme de vos grandes gueules du sport à 10h. Du rugby, tiens, sur le ring. Alors que les audiences et les affluences battent des records, que 12 équipes se tiennent en 8 points avant le duel de leader entre Pau et le Stade Toulousain ce soir à 21h sur RMC. Le top 14 est-il plus excitant que jamais? C'est la question que l'on va se poser. Captain Cessieux, prends le brassard pour nous signaler quelque chose d'important, Christophe?
Je vais vous parler de quelqu'un, il va falloir essayer de deviner de qui il s'agit. C'est un grand champion français dont on ne parle pas assez, je trouve. Voilà, mais je vous en dis pas plus.
On va en parler tout à l'heure. Ça peut te plaire, je pense, David. Les GG prennent votre zapette et vous font votre programme du week-end à 10h45 dans le vestiaire. Tiens, on a reparlé des Argentins cette semaine à la Coupe du Monde U20 de football pour leur chambrage. Eh, c'est culturel, le chambrage là-bas. Tu prends tout, tu vois, c'est comme ça. Tu gagnes, t'acceptes d'être un chambreur. Tu perds, t'acceptes d'être chambré. Oui. C'est comme ça. C'est traditionnel chez eux. Vous, les GG, vous allez nous raconter à travers vos expériences comment on gère les provocations. Je pense que vous avez tous vécu des situations assez particulières. Sur le buzzer, on va parler Formule 1, Grand Prix des États-Unis, qualif à 23h aujourd'hui sur RMC Grand Prix demain. Isaac Hadjar dit qu'il serait déçu de ne pas piloter chez Red Bull la saison prochaine. A-t-il raison de forcer la porte, Isaac Hadjar? Et puis en fin d'émission, vous en avez l'habitude, participez au jeu avec vos GG du sport et remportez aujourd'hui votre PC portable Altic, cette marque française d'ordinateurs installée à Nantes, avec cette mission de simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. 32-16 touche 4 pour vous inscrire ou envoyer sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Le 32-16 aussi pour participer à vos débats avec les GG. Notre WhatsApp 06-12-424-424 et notre compte X. Mais d'abord, les GG, le match du début de saison en foot était peut-être bien hier soir au Parc des Princes.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
PSG Strasbourg donc arbitré par monsieur Clément Turpin au Parc des Princes. Coup d'envoi donné par les Parisiens. Par contre, la frappe, le but parisien. Oh là là. L'ouverture du score, 1-0 pour Paris.
Paitini, la tête,
le but
Strasbourgeois, l'égalisation. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg.
Entrée de surface de réparation pour les Strasbourgeois. La louche vers Morera, oh, la frappe de Morera, le but Strasbourg qui mène 2-1. Le ballon est récupéré par Morera qui va trouver Paitini dans la surface. La frappe, le but Strasbourgeois. Panicelli met le PSG à genoux avec ce doublé et ça fait 3-1 désormais. Gonzalo Ramos, la course d'élan, passe à Pender, c'est dedans, ça fait 3-2. Nouveau but ce soir au Parc des Princes.
Dans la surface, la frappe de Vaioulou, l'arrêt, la deuxième tête et le but. L'égalisation du Titi parisien.
C'est terminé sur ce match nul, 3 partout. Ça fait de nouveau 2 points laissés filer par le PSG. Après le nul à Lille, après la défaite à Marseille, 2 points sur les 3 derniers matchs.
Et oui, 2 points sur les 3 derniers matchs pour le PSG. C'était du grand, grand spectacle hier soir entre Paris et Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Des rebondissements, on l'a entendu, Paris était mené de 2 buts à 30 minutes de la fin, des buts spectaculaire et un score final fou, 3 partout. L'ambitieux Strasbourg a fait vaciller le champion d'Europe encore privé de Dembélé, Neves et également d'autres joueurs. Hakimi, Mendes, Pacho, Vara, Vitinha étaient sur le banc au coup d'envoi. Désiré Doué était lui titulaire. Après sa défaite à Marseille, le PSG est passé proche de son deuxième revers de la saison en Ligue 1. Paris peut être doublé par Lyon et Marseille au classement ce soir. Les GG, je vous pose la question. Oui ou non, le PSG a-t-il vraiment de la marge en Ligue 1? Christophe Sessieux.
Moins que d'habitude.
Moins que d'habitude. Denis Charvet.
Pareil, non.
David Douillet.
Non.
Ah, Julien Veneto.
Ils en ont encore.
Ils en ont encore. Ah, si on avait fait ce débat il y a quelques semaines, les réponses auraient été beaucoup plus évidentes. Et là, évidemment, il s'est passé 2-3 choses qui font peut-être un peu douter. On vous attend au 32-16, évidemment, supporters parisiens et strasbourgeois aussi. Hein. Vous avez vécu une soirée dingue en termes d'émotion et on vous attend sur notre WhatsApp aussi. D'abord, revenons donc sur cette soirée folle. Arthur Perrault était au Parc des Princes pour RMC hier soir. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Bonjour à tous.
Salut. Ça va?
On y arrive, franchement.
T'as croisé Denis dans les salons, non?
Comment?
T'as pas croisé Denis dans les salons?
On en croise régulièrement, ouais. Tu sais.
Non, je sais pas.
Bon. Non, mais tiens,
il
d'abord.
Il est au bar.
Ça doit être ça. Derrière le bar.
Une question toute personnelle d'abord, Arthur. C'est oui. Le plus beau match que tu as vu depuis le début de la saison?
Sincèrement, oui. Et ouais. Je le mets devant le match à Barcelone en Ligue des Champions.
Ah ouais, parce que
en termes de rythme, d'intensité, de qualité de jeu, ouais, vraiment, ouais. Je le mets en numéro 1.
Franchement, si c'était un match de Première Ligue, on aurait dit ce matin, la Première Ligue, c'est un truc incroyable. Là, c'était un match de Ligue 1 et il s'est absolument tout passé. Qu'est-ce qui s'est dit après le match, Arthur? Strasbourg était venu à Paris avec l'ambition de gagner?
Oui, et ce que l'on peut noter, c'est dès le coup de sifflet final hier soir, les Parisiens qui ne cachent pas leur déception, un geste d'agacement de Luis Enrique, les visages fermés de Gonzalo Ramos et Warren Zaïre-Emery, malgré 21 tir et 72% de possession de balle, les Parisiens n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur leur adversaire. L'entraîneur parisien, conscient que l'adversité est plus importante cette saison.
Dans l'avenir, on va voir. C'est un moment spécial parce qu'on a les circonstances avec toutes les équipes et on cherche d'être compétitif dans toutes les compétitions. C'est notre objectif et nous savions, et je sais pour mon expérience, auxquels seront les mois où tout va jouer toutes les compétitions. Et notre objectif, c'est comme tous les années, arriver à les meilleurs moments de la compétition et avoir des possibilités de gagner tous les trophées. C'est notre ambition comme équipe. Mais ce sera très difficile. Il faut savoir surmonter toutes les circonstances pendant la saison.
Pourtant, avant le match, le club alsacien avait annoncé la couleur en imaginant un match ouvert dans lequel il croyait fort en ses chances. Strasbourg a profité des largesses de la défense parisienne. L'entraîneur Liam Rosenior, fier de ses hommes.
Ce qu'on a montré ce soir, c'est le fait de ne pas avoir peur. Même si la possession était plutôt du côté du Paris Saint-Germain, nous avons fait preuve de beaucoup de discipline, de compréhension tactique. Nous avons su nous adapter, on a su presser et mis de l'intensité. Donc je trouve que l'équipe a été très performante. Évidemment, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de possession, mais on affronte le Paris Saint-Germain qui est la meilleure équipe du monde. C'est aussi du crédit qu'il faut leur donner, du crédit qu'il faut donner aussi à la Ligue avec ce genre de match de grande qualité. Globalement, je suis très satisfait.
Après ce duel au sommet, Paris reste leader de la Ligue 1, mais peut perdre cette place en cas de victoire de Lyon et de Marseille.
Reste avec nous, Arthur, pour le débat. Christophe, tu disais le PSG a moins de marge en Ligue 1 cette saison.
Un peu moins. Il y a qu'à voir le classement de cette Ligue 1 très disputé. Marseille et Lyon qui peuvent passer devant Paris ce soir. Strasbourg qui il y a quelques années serait venu au Parc des Princes en mettant toute l'équipe devant le but pour éviter de prendre une rouste. Là, ils jouent crânement leur chance et en plus ils ont des joueurs de très haute qualité. Franchement, moi je suis estomaqué par cette équipe strasbourgeoise, oui. Alors que les supporters font la gueule à leur présidence.
Pas tous.
Non, c'est même une partie. Mais cette équipe strasbourgeoise, j'ai jamais vu aussi excitante que ces derniers temps. Après, évidemment, Paris est encore un peu amoindri, il y a eu beaucoup de blessures. La Ligue des Champions reste l'objectif numéro un. Enfin, l'année dernière, ils jouaient pas bien en Ligue des Champions, ils jouaient étonnamment bien en Ligue 1. Là, c'est peut-être un peu inversé.
Bah, surtout, c'est pas le même contexte, puisque c'est une saison après des titres, des émotions, et que cette année, la gestion n'est pas la même.
Ouais. Mais, simplement. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a
en Ligue des Champions,
pour l'instant, un vrai championnat disputé. Ça fait des années qu'on attend ça. Et on a 4-5 équipes qui peuvent jouer le coup pour l'instant. Je sais pas si ça va durer. J'ai du mal à croire que Paris ne sera pas champion à la fin de la saison. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le régal pour ceux qui sont passionnés et qui aiment le suspense. Je sais que toi, tu préférerais voir Paris avec 15 points d'avance.
Mais c'est bien.
C'est la première fois depuis le début de la saison que je vois Denis peu moins optimiste peut-être pour Paris.
Allez, moi, j'ai toujours dit si Marseille est constant toute la saison par rapport à leur performance, eh bien, il y aura match.
Le problème
l'année dernière, ils ont perdu trop de points en cours de route, puis surtout. Ils n'avaient pas l'équipe qu'ils ont cette année. Donc, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence avec Marseille. On va voir aujourd'hui qui reçoit le Angers, c'est ça, non ?
Le Havre.
Donc, on va voir ce qu'ils vont faire contre le Havre. L'année dernière, mais ces matchs-là, ils avaient du mal à les négocier.
Ouais, mais cette année au Vélodrome, ça
eh bien, on va voir ce soir. Donc, je me dis qu'avec un Marseille plus compétitif, plus ambitieux, on va dire, mais je pense que PSG, il va falloir qu'il fasse très attention à ne pas perdre trop de points en cours de route.
David, je t'entendais grogner quand Christophe.
Je trouve que pour synthétiser le truc, je pense sincèrement que c'est Luis Enrique qui détient l'issue de tout le championnat en Ligue 1 et de ses sélections en réalité. Parce que là, tout le monde s'affole, tout le monde s'excite sur ce match avec Strasbourg, mais ça a été un peu l'équipe B voire C du PSG qui était là. Voilà, et le mec il sélectionne par rapport à son championnat. Parce que je pense pas qu'il soit sincère quand il dit nous on essaye de gagner sur tous les championnats. C'est pas vrai. Ce qui lui intéresse, c'est que la Ligue des Champions, le championnat national, je pense qu'il n'a strictement rien à faire.
C'est une obligation quand même, David. Tu peux pas, ce sera sa prétention.
Oui, mais je suis d'accord. Ça fait partie de son contrat. Ouais, ouais. Je suis d'accord, mais regarde, c'est le mi-. Il met une équipe qui donne le, on va dire, le minimum syndical. Il voit que ça part en sucette, donc il la renforce un peu en fin de match. Voilà, mais il gère son effectif pour le vrai et seul objectif de l'année, qui est la Ligue des Champions.
C'est normal. Il avait une équipe bis là aussi, David.
Il est obligé de gérer par rapport à ses joueurs, l'état de forme de ses joueurs. Faut pas oublier qu'il a aussi des internationaux qui jouent dans des équipes nationales. Donc c'est pas évident de gérer tout ça. Alors je sais que c'est toute la perspicacité, tout le talent d'un sélectionneur. Et là, je pense qu'on a un sélectionneur de grand talent. Et faut arrêter de s'exciter sur un match comme hier aussi, parce que bon, ça reflète pas le PSG.
Ouais, même s'il faut mettre en valeur quand même la performance de Strasbourg, qui est dans la continuité de ce qui était l'année dernière.
Ça va peut-être faire bondir beaucoup de choses, beaucoup de monde. Mais le Strasbourg d'hier, il était plus fort que le Barça qui a rencontré le PSG. Moi, j'ai trouvé le Barça d'une faiblesse abyssale.
Oui, en défense.
C'est abyssal, la faiblesse du Barça. Donc, c'est pour ça que pour moi, ils ne pourront pas gagner la Ligue des Champions cette année, parce que défensivement, c'est trop nul. Et Strasbourg, hier, ça faisait. Honnêtement, je n'ai pas vu un match de Strasbourg depuis un an et demi. Mais j'ai été bluffé, quoi.
Techniquement, collectivement.
C'est incroyable ce qu'ils font. Et donc, je pense que Strasbourg, eux. Avec leur entraîneur, leur système de jeu, leur philosophie
très
de jeu,
ambitieux.
Eux, ils peuvent aller loin dans le championnat. C'est-à-dire que ça peut être une belle surprise, finir sur, aller sur une,
après,
là,
un podium Ligue des Champions. Après, c'est une équipe très jeune quand même.
Ils étaient très jeunes l'année dernière, ils ont fait accrocher avec Paris.
Mais Paris, pour revenir hier, David a raison sur un truc, c'est que ce n'est pas l'équipe type, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de blessés.
Et parce que tu as aussi appris une séquence internationale où les joueurs récupèrent.
Il y a les Ligue des Champions.
Non, mais ça va être comme ça toute l'année.
La semaine prochaine.
Non, mais il y a eu plusieurs alertes pour le PSG quand même.
Mais par rapport aux autres années.
Tu perds contre Marseille.
Non, mais voilà, par rapport aux autres années, il y a 17 points en 8 journées. Les autres années, au bout de 8 journées, tu avais déjà 20, 21 points minimum sur 24. Et puis les autres étaient un petit peu plus loin.
Julien, l'année dernière, le PSG, sur toute la saison de Ligue 1, c'est 2 défaites. Hier soir, on a failli arriver à ce total-là déjà après 8 journées.
Mais je pense quand même que quand il y aura l'équipe type et ils ont quand même en Ligue 1 une marge, je pense que Strasbourg, alors Marseille, on va voir ce qu'ils vont faire sur la durée. Je pense que Lyon, c'est bien en dessous de Strasbourg, donc ils dureront pas. Monaco, on va voir avec le nouveau coach. Donc, je pense quand même que. Et Rennes et Lille, pour moi, c'est en dessous. Donc, que Strasbourg. Donc, PSG va vraiment être en tête avec Marseille. Voilà. Est-ce que Marseille va pouvoir tenir la cadence et essayer de les titiller? On le souhaite, parce que pour les supporters marseillais, pour la Ligue 1. Parce qu'on se plaint de la Ligue 1, et on en reparlera peut-être dans le zapping avec les présidents qui se foutent dessus encore avec Ligue 1 Plus et compagnie. Mais si on a une Ligue 1 qui est, attrayante, avec un peu comme le top 14, avec du suspense, avec plein de choses, et ben c'est tout bénef pour nous, les téléspectateurs.
Moi je pense que Luis Enrique, je lui fais confiance, moi, Luis Enrique. Je pense qu'il a, ce gars-là, il réfléchit, il a une vraie stratégie. Je crois qu'aujourd'hui, il a misé sur la Coupe d'Europe. Je peux pas croire un seul instant qu'il fait tout pour aller gagner le championnat. Donc, il a cette gestion-là.
Mais
je le pense.
Il ne fait pas tout pour gagner le championnat.
Il ne fait pas tout pour gagner le championnat,
Je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il va le gagner. Oui. Il se dit même
attention à la melonite. T'es beau être le plus fort, à un moment il faut redescendre.
Non, c'est pas une question de melon.
On va écraser le reste de la concurrence.
David, je pense qu'il prend des risques. Il le sait, il le fait sciemment. Et quelque part, il se dit, je pense qu'en Coupe d'Europe, il ne peut pas refaire les erreurs de l'an passé où ils ont galéré quand même pour se qualifier. Et cette année, on le voit, mais c'est pas la même équipe en Ligue des Champions. Donc, il gère les blessés. C'est un contexte qui est difficile. C'est un contexte qui arrive dans une Coupe du Monde, avec une Coupe du Monde qui va arriver.
L'été prochain, bien sûr,
avec des objectifs aussi avec l'équipe de France. Donc, ça fait partie aussi de il faut prendre en compte.
Tu penses qu'ils veulent assurer la qualif en Ligue des Champions et après on verra.
Ils jouent à Leverkusen, s'ils gagnent, ils ont à 80%.
Mardi à 20h45.
Donc, en fonction des résultats l'année dernière, par exemple, ils voulaient pas se qualifier pour la Ligue des Champions.
Mais ils étaient si mauvais en début de saison.
Ils avaient moins de visibilité.
Mais voilà, ils avaient mis la priorité sur la Ligue 1, c'est pour ça que.
David, ils ont failli se planter quand même en la Coupe de France.
Non, mais je pense que Enrique, il a pas le melon. Simplement, il joue. Alors, il va jouer un peu avec le feu, c'est ça le truc. Donc, il va protéger ses athlètes pour effectivement la Ligue des Champions et la qualif, etc. Et à lui de bien gérer la Ligue 1, le championnat national, pour pas non plus plonger et se réveiller un peu trop tard et se faire devancer par de belles équipes comme Marseille, par exemple. Donc, c'est un jeu qui est subtil,
qui est compliqué,
mais il n'y a rien à voir avec la grosse tête là-dedans.
Le seul truc, c'est que
qu'il remettra l'effectif, ils font la différence.
Quand Georges dit, est-ce que le PSG a autant de marge que l'année dernière, moi je dis qu'ils ont moins de marge parce que quand tu mets les remplaçants, c'est pas du même niveau quand même. Sauf les petits jeunes.
Ça réduit la marge.
C'est ce qu'on a vu hier soir.
Beraldo Zavarni, c'est pas du tout du même niveau que Pacho Marquinhos. Et je pensais, moi, que ces gars-là.
Jean-Tou a énormément rentré. Beraldo, on sait que c'est moins bon. Zabarni, il faut lui laisser encore un peu de temps. Il y avait du mieux déjà sur les dernières rencontres. Ouais. Mais oui, forcément que sur le papier, tu sais très bien qu'en mettant ces joueurs-là, Christophe, c'est d'un autre calibre.
Trois buts hier soir au Parc des Princes.
Oui, mais la défense n'était pas bonne hier.
Avec le goal quand même qui ne réalise pas.
Et le goal qui leur sauve quatre occasions.
Le deuxième,
but, quand même.
Il est surpris, Lucas Chevalier.
Le PSG a-t-il vraiment de la marge en Ligue 1? C'est notre une ce matin, tiens, sur WhatsApp. Kevin nous dit, on sait très bien que Lyon et Marseille vont perdre des points sur des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faudra voir. Tiens, on a également Carmelo qui nous envoie un message. Je suis supporter strasbourgeois, fièrement abonné au Racing. On n'a jamais vu une équipe aussi costaude à Strasbourg et qui joue au ballon aussi bien depuis l'époque des Leboeuf, notamment. Ah oui, les Mostovoy. C'est vrai que ça nous ramène à une époque quand même assez lointaine, mais quand Strasbourg était européen. Bah tiens, on va se poser la question dans quelques instants, les amis. Est-ce que comme Strasbourg, est-ce qu'il faut être plus ambitieux, moins respectueux face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il montre une voie, finalement? On vous attend, supporters parisiens, supporters strasbourgeois, au 32-16. Il faut en être capable. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport qui débattent pendant la coupure pour savoir comment faire regarder tous les sports en même temps.
Julien, t'es fou. Un fou de sport.
Bien sûr. Double, triple écran. Hein. Ouais. Rugby, ouais, tennis, ouais. Formule 1.
Madame Benedetto est plus sympa avec Julien.
Non, elle n'est pas à plaindre, ça va.
Après, sinon, moi, je vous propose un truc très simple pour tout écouter en même temps, c'est RMC. Voilà, en plus c'est gratuit.
Bon, tu prends bien fait, pendant 48 heures, mais bon.
Et je dis ça de manière totalement objective. David Douillet, Denis Charvet, Christophe Cessieux, Julien Benneteau et Arthur Perrault restent avec nous aussi. Il a commenté le match hier soir entre le PSG et Strasbourg. On se pose la question ce matin, est-ce que Paris a vraiment de la marge en Ligue 1 cette saison? Tiens, on accueille Pierre, supporter parisien au 32-16. Salut Pierre.
Bonjour messieurs.
Salut. Salut. Bon, toujours une marge importante Paris pour toi ou un peu moins quand même?
Ah oui, ils ont toujours une marge importante. Ils ont une marge importante à partir du moment où ils font un peu moins tourner l'effectif, parce qu'en fait on se rend compte qu'en profondeur de banc et en qualité de banc de touche, bah au final c'est niveau Ligue 1 quoi. Faut voir quand même hier. Alors chapeau à l'équipe de Strasbourg, hein, on s'est régalé. Une équipe jeune, dynamique, peut-être un peu trop jeune pour garder le score à la fin et blinder, hein. Peut-être qu'il leur manque. Mais pour Paris, quand vous regardez hier, il y a un seul titulaire de la finale des Ligues des Champions sur le terrain. Et encore, il revenait de blessure.
Oui, oui. Désiré, oui.
Mais on se rend compte que le banc de touche, franchement, c'est niveau Ligue 1, faut pas se mentir. Et encore, Beraldo, je suis même pas sûr que ça soit titulaire à Marseille. Gonzalo Ramos, c'est niveau Ligue 1.
Oui, mais ça, on le savait l'année dernière déjà.
Fernandez, etc. Bah voilà, du coup, quand l'équipe n'est au complet ou qui fait complètement tourner l'effectif, bah c'est niveau Ligue 1. Mais par contre, s'il fait jouer l'équipe de la finale de la Ligue des Champions avec peut-être un ou deux turnovers dans l'équipe, bah c'est pas niveau Ligue 1, c'est 3-4 niveaux au-dessus. Après faut aussi se dire, enfin, depuis le début de la saison sur les matchs de Ligue 1, je suis même pas sûr qu'il y ait 3 matchs où il a fait jouer l'équipe de la finale de la Ligue des Champions.
Ah oui,
cette année ça va être
je suis même pas sûr qu'il y en ait.
T'as raison, Pierre. Non, c'est jamais arrivé. Déjà parce que Donnarumma est parti en plus, donc
surtout parce qu'il est blessé, c'est compliqué.
Faut pas oublier, messieurs, que l'année dernière à la même époque, Marseille, je crois, ils étaient à 3 points et on disait, est-ce que Marseille va pas titiller le PSG, machin. Mais en fait, on se rend compte que dès que le PSG veut appuyer sur l'accélérateur, qui met les bons joueurs, qui met la meilleure équipe, il n'y a pas photo.
Mais c'était pas Marseille avec le même effectif aussi. C'était pas le PSG avec des blessés. Donc, merci Pierre d'avoir appelé le 32-16. Marseille a battu le PSG, bien sûr. Et peut-être envoie un signal à toute la Ligue 1.
Ce que je pense, c'est qu'il faut maintenant savoir que le PSG va jouer avec une équipe diminuée souvent. Parce qu'il faut digérer.
Ça, on ne sait pas. Mais peut-être que le plus dur est derrière Paris aussi. Peut-être que les blessés.
Non, le plus dur est devant. Hein.
Tu penses?
Ah oui, enfin, ce sera pareil. Ce sera toute la saison qui sera compliqué à gérer parce qu'ils n'ont pas assez recruté, tout simplement aussi. On n'en a pas parlé, mais le recrutement. Ils n'ont pas recruté. Donc, c'était un choix de Luis Enrique. Un choix périlleux, on verra. Ça, aujourd'hui.
Ouais, mais enfin, il avait quand même dit que, justement, il recruterait pas et qu'il verrait ce qui se passerait.
Mais d'accord.
Et il verrait ça en janvier, tu vois. Enfin,
non, mais ce que tu peux lui reprocher, David, c'est qu'il n'a pas anticipé quand même une saison dantesque.
Ouais, Arthur, est-ce qu'aujourd'hui à Paris on se dit on aurait peut-être dû plus recruter?
Pas forcément, mais après il y a deux choses. Tu dis on n'a pas anticipé, mais en fait l'année dernière le Paris Saint-Germain a vécu quelque chose d'inédit. Personne ne l'a jamais vécu dans le foot. Tu veux anticiper et essayer de prévoir?
Mais en fin de saison, tu sais très bien que tu es champion d'Europe, que tu as laissé toutes les émotions, toutes les forces dans la bataille, mais tu te dis je vais régénérer un peu mon groupe.
Sauf que tu as Luis Enrique qui a dit, moi avec ce groupe-là aujourd'hui, je pense que je peux enchaîner.
C'est son choix. Donc on verra si son choix est payant et gagnant ou pas.
Non, mais il y a un truc qui est très important au PSG, c'est ce fameux milieu de terrain, Vitinha, Neves et Fabián Ruiz. Parce que quand les trois sont là et que tu mets Gonzalo Ramos, Mbaye ou Mayulu devant.
Ils sont bien servis. Oui, Sam Beraldo aussi derrière. Hein.
Non, mais ils gagnent, les mecs. Mmh. Ils gagnent en Ligue des Champions, ils gagnent en Ligue 1. Là, c'est conjoncturel. Et, il a fait tourner au milieu de terrain parce qu'il y a eu la trêve internationale. Il y en a qui ont beaucoup joué. Il y en a qui sont blessés. Il anticipe. Là, Hakimi, il sort, il était au Maroc. Il va y avoir la CAN au mois de décembre. C'est l'un de ceux qui a le plus joué et qui s'est pas encore blessé.
On en revient à une question de détectif, quand
même. Et qui s'est pas blessé et qui s'est pas encore blessé parmi les cadors. Donc voilà. Pour moi, ils ont encore un peu de marge.
Non, mais bien sûr. L'idée ce matin, c'est pas de dire il y a le feu à la maison Paris. Hein. Paris est encore leader de Ligue 1. Va peut-être se qualifier rapidement en Ligue des Champions. On attend le match mardi à 20h45 face à Leverkusen. Oui, David.
Gagner un match de foot, c'est déjà pas prendre de but. Et là, ce qu'on a vu hier soir, c'est une défense en bois, quoi. Voilà. Tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes de défense, même et surtout avec des joueurs de deuxième rang, hein, et ça sera compliqué. Il faut faire attention
à
ça.
C'est pour ça qu'il faut reparler du recrutement, quand même.
Il y a aussi un.
Il y a Zabardi qui est arrivé en défense.
Dont on n'a pas parlé, c'est quand même la préparation à la Coupe du Monde pour cette équipe qui a quand même quasiment que des internationaux. Il va falloir aussi gérer ça.
Ouais, ce que disait Denis tout à l'heure.
C'est sûr.
Passé janvier, peut-être que certains joueurs auront ça en tête et
vont moins se blesser.
C'est pour ça que la saison risque d'être un peu longue et compliquée.
Tiens, la question qu'on peut se poser aussi au lendemain de ce match un peu fou, c'est comme Strasbourg, est-ce qu'il faut être ambitieux, moins respectueux peut-être face au Paris Saint-Germain? On rappelle, Paris n'avait pas pris un but au Parc en Ligue 1 cette saison. Ils en ont pris 3 en une soirée. Tiens, Diego Moreira, je l'adore, Diego Moreira, le latéral de Strasbourg, il nous parle des ambitions de cette équipe strasbourgeoise et d'aller au Parc.
C'est sûr qu'il y a un petit sentiment de regret parce que on a mené au score pendant la fin de la première mi-temps et début de la deuxième. On aurait aimé prendre les 3 points, mais je pense que c'est un bon point de prix. Et on est quand même content avec ça parce qu'on a fait un gros match. On est une équipe ambitieuse. On veut accrocher le top 3 cette année pour pouvoir jouer la Champions League l'année prochaine. Donc voilà, on veut montrer de quoi on est capable.
On veut montrer de quoi on est capable. Et franchement, une des images, je pense, de la soirée, ça a été de voir les Strasbourgeois jusqu'à la dernière minute essayer de gagner ce match.
Oui,
essayer
sûr.
De gagner
avec
ce match
des grosses occasions, hein.
Non, mais ce qui est très rare quand on n'est pas en Ligue des Champions au Parc des Princes, hein, en Ligue 1,
on le voit rarement. Tu peux te satisfaire d'un nul, même au Parc, c'est déjà un exploit d'aller faire un nul. Mais là, ils sont allés chercher la victoire. C'est dire si l'ambition de Strasbourg est vraiment réelle.
Et leur entraîneur est un garçon sur lequel, d'ailleurs, Luis Enrique ne tarit pas d'éloge. Oui,
Liam Rosenior.
Il trouve que celui-ci a vraiment une philosophie de jeu intéressante. Ouais. Et je dois dire que. Et puis alors, ces deux Argentins, là, le renard de surface, le Barco.
Panicelli et Valentin Barco. Le Colorado, le petit rouge.
C'est incroyable. Tenter la louche comme ça dans la surface. Après, il y a cette reprise un peu plat du pied qui est un peu écrasée, mais l'action, ça démontre quand même une certaine confiance en eux, dans leur style, dans leur ce qu'ils veulent faire, dans l'approche, dans ce que met en place Rosenard. Non, moi. Honnêtement, le coach et ce qu'ils ont fait hier à Strasbourg, moi, ils m'ont bluffé.
Ouais, bluffé. Le petit Barco, moi, je peux vous dire, je l'ai vu jouer à la Bombonera. Il a commencé à Boca Junior. Vous savez, la pression qu'il y a en Argentine quand vous jouez là-bas, il avait quoi, 17 ans et il jouait déjà comme un gamin avec une grande expérience. Donc, ces joueurs-là, sud-américains, quand ils arrivent dans des endroits de pression comme Pacho, comme Enciso, ils ont déjà vécu ça dans leur pays où il y a beaucoup de passion, où il y a forcément, ça forge des caractères dans des situations.
Beraldo, il l'a vécu ça aussi?
Un peu moins. En tout cas. Balerdi, tu disais tout à l'heure, Balerdi, oui, à Boca également, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas appris autant. Non, mais tu disais tout à l'heure, Bennett, tout le monde n'a pas les moyens de Strasbourg pour aller embêter le PSG aussi. Parce qu'on dit, voilà, tout le monde ne veut pas être ambitieux au Parc.
Et même chez eux. Déjà, ça va dépendre de la composition d'équipe du PSG. Parce que quand il y a l'équipe plus ou moins type du PSG, avant de vouloir aller jouer, et tu peux vite en prendre 3 ou 4 avec Dembélé, Doué et compagnie, ça peut être très compliqué. Ensuite, je pense qu'effectivement, pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 ont la qualité de Strasbourg dans la philosophie,
mais parfois, certaines équipes viennent aussi.
Bien sûr, en mettant le bus.
Trop respectueuses.
Bon, alors, Julien, Strasbourg ou l'Olympique de Marseille pour terminer dauphin du Paris Saint-Germain?
Moi, hier, ils m'ont bluffé. Honnêtement, je ne pensais pas que Strasbourg était aussi fort.
Il faut être capable de durer
sans flamme, tu vois. Non, mais faut pas s'en flammer. Après, je sais pas.
Est-ce que la profondeur d'effectif est assez
suffisante pour tenir sur une saison, et s'ils ont un ou deux blessés, s'il y a des internationaux qui vont partir à la CAN, pas assez spécialiste de Strasbourg, enfin que j'appelle Gilbert Bebrois pour savoir.
Strasbourg-Marseille, c'était un des plus beaux matchs de la saison aussi, hein, gagné sur le gong par les Marseillais. David, tu voulais rajouter un truc?
Non, je veux dire, il ne faut pas trop s'enflammer non plus sur Strasbourg, parce que quand tu as une équipe qui est un peu en dessous, comme celle du PSG hier soir, c'est vrai que les joueurs peuvent s'exprimer beaucoup plus. Donc si tu as une équipe un poil plus renforcée, tout de suite, ça peut figer le jeu, et puis personne, tout le monde est un peu asphyxié. Donc, ouais, d'accord, on a noté que Strasbourg pouvait être très très bon face à une équipe qui est genre nouveau. Voilà.
Je rejoins
David.
Georges. Pas David, Georges, parce que il y a très peu d'équipes qui présentent une telle ambition au parc. Non, mais très peu. C'est vrai que c'est la question que je me suis toujours posée quand je vais voir jouer le PSG. Tu vois des équipes qui se regroupent derrière et qui ne font rien de 90 minutes.
Bon, ça met parfois des équipes qui sont
très équipées. Longtemps, le
oui, mais depuis longtemps. Mais ce que dit Georges, là où je le rejoins, c'est qu'effectivement, hier, tu vois une équipe de Strasbourg. C'est pas que de l'ambition, c'est un état d'esprit pour moi. Et l'état d'esprit, il est réellement là. Donc, on verra.
Qui a été en plus alimenté, Denis, toute la semaine. Comme le disait Christophe, Liam Rosenior, il a même dit dans les médias, des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on y va pour jouer.
Oui,
au parc.
Pour jouer. Et donc, ils affichent son ambition et puis ils assument. Je trouve ça super. Donc, je suis un peu partagé par rapport à ce que dit David.
Faut qu'ils en profitent parce qu'on sait que malheureusement, ouais, c'est le genre d'équipe qui va vendre les joyeux de la couronne la saison.
Il y a déjà beaucoup de bons joueurs qui étaient là l'année dernière.
Ils n'ont pas le choix. Vu les droits télé qu'ils vont prendre grâce à Ligue 1, ils sont obligés de vendre leurs joueurs.
Oh là là, il annonce déjà les sujets qui arrivent. Programme du jour, je vous rappelle, il y aura Nice-Lyon à 17h, Christophe, Angers-Monaco 19h, Marseille-Le Havre 21h05, Arthur le disait tout à l'heure, si Marseille et Lyon s'imposent aujourd'hui, ils peuvent passer devant Paris au classement.
Lyon ne s'imposera jamais à Nice.
Ah oui, ouais. On va voir quand même. Merci Arthur.
Salut messieurs, à très vite.
Et dans quelques instants, zapping, on va parler foot, on va parler tennis, on va aussi se poser la question, est-ce qu'on peut signer des autographes encore gratuitement? Tiens. Allez, à tout de suite dans les grandes gueules de sport.
Gratuitement. Quand même.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Avec David Douillet, Christophe Cessieux, Julien Beneteau et Denis Charvet. Ce matin, dans un instant, sur le ring des GG, on va parler de rugby. Le top 14, Denis. Est-ce qu'il est plus excitant que jamais? Dis-moi oui ou non.
Oui.
Oh là là. Ce soir, duel de leader entre la section paloise.
Il n'y a qu'à voir les audiences.
Et le stade toulousain. Exactement. C'est pour ça qu'on s'appuie dessus. En plus, ce soir, toutes les stars sont là. Ah, il n'y aura pas l'équipe B ni rien. Ouais. Sur Pau, Toulouse. Mais
franchement, t'es régalé, Toulouse-Bordeaux, la semaine dernière?
Mais ça a toujours été comme ça.
Tout le temps.
On le sait. On vous attend au 32-16 et sur notre WhatsApp 06-12-84-84. Allez, tout de suite, les GG, vous me dites. On s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Vous me dites, je m'en fous pas. Le football français repique sa crise un petit peu avec l'IRA Plus au cœur des querelles. Julien Beneteau.
Je m'en fous pas, ça me fait rire.
Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je m'en fous pas.
Le dernier conseil d'administration de la LFP, c'était mercredi, a donné lieu à de nouvelles scènes de tension entre les présidents de Ligue 1 et donc Nicolas de Taverneau, qui est le patron de LFP Média, donc le patron de Ligue 1 Plus en fait. Au cœur de ce dossier, il y a l'argent, évidemment. Certains s'interrogent sur certains coûts de fonctionnement de la chaîne, hein, on parle notamment de petites primes qui ont été données cet été à ceux qui ont bossé pendant l'été, et aussi sur la faculté de Ligue 1 Plus à avoir encore plus d'abonnés à l'avenir. Hein. Certains présidents se disent, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un plafond de verre déjà là avec 1,2 million d'abonnés, est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin? Et du coup, aller, ne pas aller beaucoup plus loin, ça veut dire moins d'argent potentiellement. Christophe.
Non, mais c'est dingue parce qu'ils sont en panique. Les présidents de clubs sont en panique à tel point que dans la chaîne Ligue 1, ils les appellent les centimiers. Les mecs, ils comptent tout, quoi. Donc, ils ne comprennent pas. Eux qui ont quand même dépensé à volo pour des joueurs minables, à des transferts incroyables, payer des ils viraient leurs entraîneurs au bout de quelques mois et leur filaient des indemnités incroyables. Aujourd'hui, ils sont là. Ah, mais dites donc, vous avez eu une prime de 1000 euros parce que vous avez bossé tout l'été. C'est pas normal. C'est d'un mesquin. C'est
une prime de 1000 euros pour ceux qui ont travaillé à Ligue 1 Plus.
Surtout à l'échelle d'un club de Ligue 1 où l'argent de Ligue 1 Plus peut revenir dans les clubs.
En qu'est-ce plus, que... ils bossent pour eux.
Non, mais qu'est-ce que ça va. Quelle est la différence pour les clubs dans leurs revenus potentiels si Ligue 1 Plus a payé, comme tu dis, et donné des primes à des gens qui ont travaillé tout l'été?
Non, mais derrière tout ça, il y a la volonté de chercher un peu la petite bête avec Nicolas Taverneau.
Ça ne les regarde pas, mais là, je ne sais pas, c'est ridicule pour moi.
Non, mais de toute façon.
Non, mais ils sont aux abois. Et je les comprends, ils ne savent pas comment ils vont faire pour payer leurs joueurs à la fin de la saison et même à la fin du mois.
Mais peut-être qu'ils se disent aussi.
David. Christophe, tu peux pas dire que tu les comprends parce que ça fait des dizaines d'années que ça dure cette affaire-là.
Oui, mais bien sûr.
Ils avaient, il y en a aucun, si ce n'est un, je vais parler de Jean-Michel Aulas, mais il y en a aucun qui a investi dans son outil de travail. Je mets le PSG à part. Il y en a aucun qui a construit un vrai modèle économique pour essayer de s'autosuffire. Donc tout le monde attend la béquée chaque année des droits télé, etc. Alors là, ils ont construit une chaîne très bien, mais c'est un métier. Et Taverneau, à mon avis, il fait ce qu'il peut et ils sont là en train de tirer la couverture. Du fric. Faut le temps. Une chaîne, ça se fait pas en 5 minutes. Faut le temps de s'installer. Enfin, voilà, c'est Canal Plus a mis des années à installer tout
ça, par exemple. C'est un succès, mais il faut continuer le marketing, la publicité autour de
lui. C'est un succès qui est au max.
Oui, mais c'est au max.
Ils sont à 85%.
Non, mais t'as 1,2 million,
ils retrouveront jamais les sommes qu'ils
avaient. 1,2 million, 1,5 million d'abonnés. Allez, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va y avoir 1,5 million d'abonnés en plus dans 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il va faire?
Non, si tu arrives à juguler complètement le piratage. Mais pour l'instant, on n'en est pas là.
Encore,
pour l'instant, ils font des grandes annonces.
Ou à proposer autre chose, peut-être. On parlait là des espoirs, peut-être. Pourquoi pas proposer à terme tous les matchs de Ligue 1, la Ligue 2.
Pour s'abonner pour regarder des espoirs.
Si tu as une chaîne où tu as tout le foot, éventuellement,
là,
tu
pourras payer
la Ligue 1 à 10 euros. Le problème, ça plombe tout.
Ça, c'est obligé.
Tu peux faire tous les calculs du monde, tu verras que tu.
Bien sûr. Mais les présidents. Ils sont malhonnêtes parce que ils le savaient ou alors ils sont fous d'avoir signé dans cette condition.
Il gratte parce qu'il peut être quelque chose derrière aussi.
Non mais il faut voir effectivement Canal Plus va peut-être perdre une partie des droits de la Ligue des Champions, peut-être qu'ils se disent que Canal peut revenir, ça fait partie
mais
des
revenir des conditions. Genre tu crois que Canal aujourd'hui, même s'ils reviennent sur la Ligue 1 de ces quatre, ils mettront les sommes qu'ils mettaient il y a
mais ça peut être des revenus garantis qui peuvent satisfaire certains clubs pour leur budget, ils voient un petit peu plus clair. Allez, on zappe. Tout le foot c'est gratuitement sur RMC de toute façon. Je m'en fous pas.
En tout cas, c'est pathétique.
Je pense qu'on va continuer à en reparler, hein, parce qu'on sait que c'est souvent un peu Dallas. Je m'en fous pas. On a beaucoup parlé de Paul Sexas, 19 ans, comme nouveau phénomène du cyclisme français. Mais attention à ne pas oublier Paul Magnier, 18 succès cette saison. Denis Charvet,
on s'en fout. J'ai vu ça sur l'équipe. Non, je m'en fous pas du tout. Non.
Julien.
Fantastique.
David.
Incroyable.
Ah, moi, je m'en fous pas.
Christophe.
Christophe. C'est Christophe le spécialiste du vélo.
Il lui a apporté bidon.
Le spécialiste, il le connaît même pas.
Je rappelle, à 22 ans, coureur de l'équipe Soudal Quickstep, il a remporté 4 victoires en autant de jours sur le Tour de Guangxi.
C'est
en Chine. Il en est désormais à 18 succès cette saison. En un mois tout pile, il a enlevé 12 victoires en un mois. Je vous rappelle qu'il en a 22 sur sa carrière. Seul Pogacar a levé davantage les bras cette saison avec 20 succès. Ça y est, c'est l'âge d'or du cyclisme français.
Alors,
devant nous.
Attention, parce que les victoires remportées par
les monuments,
Paul Magnier, c'est pas les mêmes que celles de Pogacar quand même. Gagner 4 étapes sur le Tour de Guangxi. Mais enfin, c'est une épreuve World Tour, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup de points. Et s'il s'impose demain soir, il deviendrait le premier Français à remporter une épreuve par étape depuis Christophe Moreau au début des années 2000.
Donc, Paris-Nice, ou un truc comme ça.
C'était Dauphiné, je crois. Donc c'est tout simplement énorme. Mais voilà, au-delà de ses succès, c'est que ce garçon-là est en train de s'aguerrir et que ça peut devenir, en plus qu'un sprinteur, parce que je pense que face aux plus grands sprinteurs, il aura un peu de mal à être aussi performant. Mais c'est un garçon qui, dans une équipe qui est la même que celle qu'avait dans laquelle était Julien Alaphilippe, il peut devenir un spécialiste des classiques, notamment des Flandriennes. Donc, je le vois très bien un jour remporter quand il y aura plus Pogacar.
Il peut devenir champion du monde
sur un parcours qui lui convient. Oui.
David.
Moi, ça m'a fait penser à une parole du blaireau, le célèbre Bernard Hinault, qui disait un jeune, pour pouvoir prétendre être potentiellement un grand, il faut qu'il gagne tout. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai pensé tout de suite à cette parole. Et je trouve qu'il a raison.
Christophe, tu es en train de nous dire qu'on a un coureur potentiel vainqueur d'un grand tour et un coureur potentiel vainqueur des grands classiques.
Et ils ont 19 et 21 ans.
Bravo.
Génial.
Donc, magnifique.
On va le suivre.
Vous allez pas partir à la retraite.
Vous allez attendre Christophe jusqu'à 70 ans.
Tant qu'il y en a un qui n'a pas gagné le Tour de France et qui n'a pas gagné Paris-Roubaix le Tour des Flandres, je ne pars pas à la retraite.
C'est l'un de nos contrats, ça.
Ouais.
Allez, on zappe.
Si on arrive à installer des perfusions au micro, ça ira.
Si on m'a, tu sais, une petite ligne installée dans mon EHPAD, ça peut être bien.
Je m'en fous pas, les GG. Lamine Yamal, sur le point peut-être de vendre ses autographes.
Non, mais lui.
Ouais, ça, allez, touche le fond, là.
Honteux.
Et c'est son père qui va aller vendre un coup de canif.
Attendez, du coup, je vais expliquer quand même. D'après Mundo Deportivo, donc le quotidien catalan, Yamal aurait
pensé. On s'en fout, mais il explique.
Ah oui, non, mais attendez. Non, mais là, j'ai entendu.
Non, je m'en fous pas, moi.
Parce que Denis, j'ai entendu David dire honteux, donc il est quand même énervé comme ça, il faut qu'on y aille.
Alors, je vous dis,
Yamal, selon Mundo Deportivo, aurait pour consigne de ne plus signer d'autographe au centre d'entraînement du Barça. Il serait sur le point, par l'intermédiaire d'une entreprise, de commercialiser ses dédicaces. Petit problème, c'est que son club a lui-même besoin des signatures pour divers partenariats. Donc, en fait, il serait en train de négocier la possibilité de bénéficier d'un certain nombre d'autographes de son joueur star. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui a été signé. Mais en tout cas, c'est un truc qui fait beaucoup parler pour l'instant.
Le blé, c'est un truc de dingue où ils vont chercher. Les mecs, ils sont payés des fortunes, ils vont aller chercher comme ça, Denis. Parce que les NFT, tout ce qu'on, tu sais, les NFT, tu veux dire vendre des produits personnels.
Ben oui. Ah, vas-y, c'est quoi, Denis, explique.
Tu confonds pas avec les MST, non, c'est comment tu dis?
Mais Georges,
les NFT, oui, bien sûr.
Les produits, c'est financé comment, avec quoi?
Non, mais attends, David, d'abord, honteux. Tu dis que c'est honteux, David.
Non, mais c'est honteux. Enfin, je veux dire, en général, les autographes, c'est des fans, en particulier, je pense à des gamins qui rêvent. Voilà, s'il faut qu'ils payent pour avoir un autographe, mais c'est une honte. Je veux dire, il reste encore un petit secteur privilégié où on peut parler de générosité, surtout dans un monde professionnel comme dans celui du foot, etc. Bref, si ça en plus ça se transforme en cash, mais c'est une honte absolue,
tous les autographes que tu as signés, voilà. Tu serais milliardaire.
Mais non, mais ça va devenir un vrai business, les gars.
Vous savez, les
cartes de joueurs comme les Carpani, la signée, ça se vend à des millions, à des milliers de dollars. Hein, donc, ça va devenir un vrai business. Tiens, Mika,
c'est un tel bonheur pour un gamin, pour un fan de sport, d'aller auprès de son idole et de voir que le mec il te signe un truc. Mais ça fait partie de.
T'imagines?
Donc, ça veut dire qu'il y aura des gars. Il n'y aura que les gamins riches qui pourront avoir un autographe. C'est une honte.
Peut-être que tu dois
ceux qui connaissent Denis.
Et derrière, le joueur te dira.
Ils auront une photo de Denis.
Tu notes un
une photo de quand il était jeune. Il n'y a plus personne qui en veut de ces photos-là.
Tiens, sur WhatsApp, Mika m'envoie un selfie de lui avec Christophe Cessieux. Est-ce qu'il va être vendu 50 balles pendant le Tour de France?
C'est moi qui donne 50 francs si tu prends mon autographe.
Ah non, c'est pas un bon business plan, ça.
Non, je n'ai jamais été doué en argent, moi, tu sais.
Allez, tout de suite les GG, le ring, le top 14 est-il plus excitant que jamais? C'est la question que l'on va se poser. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.